Ce soir, j'aimerais amener quelques précisions quant aux termes que nous utilisons dans la journée ou dans les instructions. Parce que je me rends compte souvent qu'on peut les comprendre de diverses manières et que la tradition bouddhique aussi donne des sens spécifiques à ces termes. Donc, essayer de préciser un petit peu ce qu'on entend. Il y a des termes assez flou, même en français d'ailleurs, quand on essaie de trouver un peu des références, on se rend compte qu'il y a des points de vue assez différents. Donc il est important de préciser un peu le sens qu'on veut donner ici, ce qui ne veut pas dire que c'est le sens que ce terme a, mais le sens qu'on aimerait bien lui donner ici. Donc je vais faire un petit survol et puis préciser donc certains termes. Donc dans le sutra qui sert de base à la méditation qui s'appelle le Satipatthana Sutra, qui est bien détaillé, qui mentionne un peu tous les types d'expériences, qu'on a quelquefois un peu la tendance à prendre comme la source de référence ou la seule source de référence, ce qui est un peu dommage parce que c'est un sutra quand même parmi de nombreux sutras. Et qui a une sensibilité particulière, mais qui n'est pas toutes les sensibilités. Donc je crois qu'il y a aussi d'autres textes, d'autres sutras qui parlent de la méditation, dans un point de vue légèrement différent, qu'il est aussi important dont il est aussi important de tenir compte. Mais ici, parce que c'est ce dont je voudrais parler, donc énumérer les expériences que ce Satipatthana Sutra inclut dans les expériences qui sont le lieu de la méditation. Pas seulement ce qui pourrait arriver, on pourrait dire, mais ce qui est bien qu'il arrive, puisque chacune de ces expériences est à ce moment-là l'opportunité de la méditation et de l'approfondissement de la méditation. Donc ce texte commence par évoquer la respiration, qui est assez, on va dire, assez traditionnelle. Donc la respiration tout d'abord pour tranquilliser l'esprit, dans ce qu'on appelle samatha, en mentionnant le fait de compter les respirations, je crois, et puis aussi de prendre conscience si la respiration est longue, si elle est courte, si elle est superficielle, si elle est profonde. Donc là, on se rend bien compte qu'on a affaire à des concepts, parce qu'une longue respiration, une courte respiration, ce n'est pas une expérience, mais c'est une manière d'évaluer une respiration. Donc tout à fait en accord avec la manière dont on développe la concentration en s'appuyant sur un concept qui est stable, donc on peut très bien être conscient, les respirations longues, longue aspiration, longue expiration, et si tout d'un coup elle devenait plus courte pour une raison ou une autre, prendre conscience de ceci, ce qui mobilise l'attention et va permettre dans cette mobilisation de tranquilliser l'esprit, va occuper l'esprit dans le fond pour qu'il ne soit pas occupé ailleurs. Un peu ce que fait la concentration. Elle l'occupe sur une seule tâche, et puis ça protège l'esprit d'aller dans toutes les directions. Donc la respiration tout d'abord, voilà, longue, courte. Dans la tradition de Mahasisayado, tradition birmane, alors c'est plutôt l'abdomen qui est comme support, premier support, et à ce moment-là, on est conscient, attentif au soulèvement et à l'abaissement de l'abdomen. Et aussi, soulèvement, abaissement, c'est aussi un concept, parce que ça prend du temps pour qu'un abdomen se soulève ou qu'il s'abaisse. Donc c'est une image, un concept sur un processus, mais ceci permet de calmer l'esprit, parce qu'on a une sorte de support plus simple. Et lentement, on pourra lâcher cette notion de soulèvement et d'abaissement et d'être en rapport avec la sensation corporelle. Une sorte de passage naturel qui fait que quand l'esprit se calme, alors on est attentif à la sensation, présent à la sensation corporelle de légèreté, de chaleur, et on peut laisser tomber cette notion de soulèvement-abaissement. Donc là, on a passé d'une attitude, on pourrait dire plutôt samatha, pour tranquilliser l'esprit, à l'attitude vipassana, qui est déjà une plus grande intimité à l'expérience elle-même. On a toujours ces deux approches de la respiration. D'une manière conceptuelle tout d'abord pour calmer l'esprit, et puis d'une autre manière, par moment, où on est conscient des sensations qui accompagnent le processus. Donc à ce moment-là, on n'est pas conscient de la longueur d'une inspiration ou d'une expiration, mais plutôt des sensations qui surgissent à chaque instant sous l'effet du processus. Donc c'est quelque chose de plus intime et pas quelque chose de conceptuel. Et ce contexte-là aussi, prendre conscience des autres sensations corporelles qui pourraient surgir. On peut bien se rendre compte, tout d'un coup, on est sensible à ce qui pourrait se passer dans la zone de l'abdomen, par exemple, mais il se peut aussi que d'autres sensations se fassent sentir dans d'autres zones du corps. Donc ceci est une ouverture à l'expérience du corps dans son aspect donc sensoriel, en découvrant les différentes sensations qui peuvent surgir par moment. Douleur, tension, et essayer de passer au-delà de la douleur, au-delà de la tension, pour prendre conscience de la sensation corporelle qu'on va appeler douleur ou qu'on va appeler tension. Tout évidemment ce dont nous avons parlé jusqu'ici, et aussi ensuite le texte mentionne les mouvements, la marche, les positions, debout, assis, couché, et puis toutes les activités, le fait de tourner la tête, de plier le bras, de tendre le bras. Donc on a là d'inventaire de toutes les activités possibles. Le texte en cite pas mal, mais enfin, il ne va quand même pas essayer de mentionner tous les petits mouvements qu'on pourrait faire. Mais c'est bien ce qui est signifié ici, c'est cette présence à chacun des mouvements, à chacune des activités, de manger, de boire, etc. Dans le texte, la manière dont c'est traduit, et peut-être proche d'ailleurs de l'expression du pali, il sait ou elle sait. Quand un méditant tourne la tête, il sait, elle sait. Quand un méditant est assis, il sait, elle sait. Mais savoir, c'est quand même un peu vague, parce que il y a quand même assez peu de gens qui savent pas quand ils sont assis qu'ils sont assis. Il n'y a pas besoin de faire une semaine, même un week-end de méditation pour dire ah, maintenant je sais quand je suis assis que je suis assis. Donc le terme ici reste assez vague. Il est important de faire la distinction entre savoir et être conscient. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans la pratique de la méditation. Être conscient, on parle de présence. Donc le savoir, par exemple, que je suis assis, quand je suis assis, c'est un concept. Je fais ce constat, je suis assis. Eh bien, si je suis distrait tout d'un coup, j'ai pas oublié ce savoir. Si quelqu'un vient me dire ou m'appelle sur mon téléphone pour qu'il pose la question de manière sensée, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis assis. J'ai pas eu besoin de me regarder et dire, ah voilà, je suis assis. Ce savoir, je l'ai pas perdu. Je l'ai pas perdu. Par contre, être conscient, si je suis conscient d'être dans l'assise, si je suis distrait, au moment de la distraction, cette conscience, je l'ai plus. La conscience de l'assise au moment où je suis dans l'audition, je l'ai plus, alors que le savoir, je ne le perds pas. Parce que le savoir, c'est le concept, c'est justement la richesse du concept, c'est qu'on peut le garder. Et la richesse de la conscience ou de la présence, mais sa difficulté, c'est qu'on ne peut pas la garder. C'est qu'elle est là quand elle est là, et quand elle n'est plus là, elle n'est plus là. Donc la conscience et le savoir sont deux choses très différentes. Parce que souvent dans la pratique, on se dit, ben voilà, je sais. Il y a de la tristesse, voilà, je sais, j'ai de la tristesse, je l'ai reconnue, ou il y a une tension ici, voilà, je l'ai reconnue, et on se dit, mais alors, voilà, j'ai fait mon boulot, puis moi j'attends la récompense, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On a dit, voilà, il faut être conscient, voilà, eh bien, rien ne se passe. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec moi. Parce qu'évidemment, si on ne fait pas cette nuance, le fait de reconnaître, ça ne suffit pas. Reconnaître, c'est juste mettre un concept, et ce concept est quelque chose de stable. Par exemple, si je constatais tout d'un coup qu'il y a de la fatigue, je suis fatigué, voilà, le soir, voilà, je suis fatigué, bon, j'ai constaté ça, c'est juste, je me trompe pas, mais ce constat, lui, il est stable. Et je suis fatigué. Tout le monde comprend ce dont on parle, mais est-ce que c'est une grande fatigue, une moyenne fatigue? Comment est-ce qu'elle s'éprouve? Alors que dans l'expérience elle-même, cette conscience de ce qui se passe pour moi en ce moment, il y a une richesse immense que je ne peux pas décrire. Peut-être qu'il faudra un livre en entier, mais je ne sais pas. Donc, dans l'expérience même, la conscience même de cette fatigue, il y a quelque chose dans une plus grande intimité qui est spécifique à chaque instant. que je ne peux pas garder. Donc le fait de constater je suis fatigué, je ne suis pas dans la présence, je ne suis pas dans la méditation vipassana. J'ai pris conscience que j'étais fatigué, mais à nouveau, il n'y a pas besoin de méditer pour savoir quand on est fatigué, qu'on est fatigué. C'est une sensibilité bien différente à laquelle on s'ouvre et qui est justement là que se situe la richesse de Vipassana. C'est d'arriver à être conscient, présent à ce qui se passe pour nous, présent à notre vie. Et la tendance qu'on a, on n'accuse personne d'ailleurs, mais la tendance qu'on a, c'est de se contenter de reconnaître. On nomme, on reconnaît, puis on pense que ça suffit. On oublie de vivre la chose. Comme si on devenait une sorte de livre ambulant, quoi. On a tous ces concepts et puis on oublie de sentir, de goûter la vie dans le vécu lui-même ici, de la fatigue, par exemple. Dans la sensation corporelle, dans toute expérience, ça sera la même chose. Reconnaître ne suffit pas. Dans l'émotion, reconnaître ne suffit pas. C'est bien dommage parce que c'est tellement plus simple de reconnaître que d'être conscient. Mais voilà, on a tous fait l'expérience, ça ne suffit pas parce que le concept fatigue, ce n'est pas la fatigue, le concept tristesse, ce n'est pas la tristesse ou inquiétude, ce n'est pas l'inquiétude. C'est quelque chose qui rencontre, une représentation qui rend compte de ce qui se passe. Si je dis je suis inquiet, tout le monde va comprendre que je suis inquiet. Mais c'est une transposition qui justement permet de communiquer, mais ça ne vous permet pas de ressentir d'abord mon inquiétude, parce que le concept est juste une substitution, une représentation, n'est pas la chose elle-même, n'est ici pas l'expérience elle-même. Donc dans la méditation, l'enjeu c'est toujours d'en venir à l'expérience elle-même. Non pas parce que tout d'un coup on devient, je ne sais pas, des adorateurs de l'expérience elle-même. Oh, moi je suis pour l'expérience. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose de libérateur dans l'expérience, parce qu'on peut la connaître profondément au-delà du concept et qu'il y a une certaine liberté. Voilà pourquoi c'est intéressant. D'abord, il y a une plénitude, parce que vivre au niveau du concept, c'est toujours superficiel. On ressent bien un certain manque dans notre existence, et c'est pas parce qu'on manque de nourriture, d'argent, je sais pas, de confort, on a vraiment tout ce qu'il faut. Non, le manque, c'est un manque de plénitude, parce que tant qu'on vit au niveau du concept, toute expérience conceptualisée, elle est superficielle. Donc il manque quelque chose. Ce qui manque, c'est la vie dans nos concepts. Et la vie vient quand on se relie à la vie et qu'on ne s'arrête pas au concept. Donc cette différence entre savoir et être conscient ou présent est importante pour nous dans la pratique, même si souvent ça commence par le savoir. Je suis fatigué, je prends conscience, tiens, je suis fatigué. C'est le premier élément et tout d'un coup je me dispose à éprouver la fatigue. Mais c'est vrai que si je n'en ai pas pris conscience, je n'ai pas nommé ceci, peut-être que je vais me faire des efforts sans me rendre compte. Puis tout d'un coup me dire peut-être, tiens, je suis fatigué, donc je peux m'ouvrir à ceci. Ou bien j'ai des pensées qui tournent, etc. Voilà, je ressasse les mêmes choses, tout d'un coup je prends conscience, je suis irrité, j'ai un concept. Alors maintenant, je peux me relier à cette irritation. Donc cette reconnaissance est juste, c'est un premier aspect qui est important et qui bien souvent nous échappe aussi, on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est une étape importante, mais ça ne suffit pas. On va passer à l'étape suivante, si on parle d'étape, qui est la présence, être conscient à ceci. Donc cette distinction est importante. Dans ce sutra, puisqu'il a l'avantage d'être une petite encyclopédie qui décrit un peu toutes les expériences, on a quatre sphères d'expérience. La première qui est liée au sensoriel. Si on vient d'évoquer le corps, surtout, on pourrait parler de l'audition des sons, la vision des couleurs, etc. Donc la première sphère, c'est le sensoriel. La deuxième sphère, c'est ce qu'on appelle les sensations affectives. C'est le fait qu'une expérience est vécue comme agréable, désagréable ou neutre. Chaque expérience a ce goût-là. Donc les trois suivants, si vous voulez, après la sphère des perceptions, Les trois prochaines sont liées à l'esprit et à la conscience. Trois qui sont les sensations affectives, les pensées, les émotions et les états mentaux. Donc tout ceci, c'est lié à la conscience. Donc une sphère sensorielle et puis les autres sphères qui sont les sphères liées à la conscience. Je voudrais parler un petit peu plus de ceci parce que on n'est pas très clair et c'est assez rare qu'on prenne le temps de le faire avec précision. Donc, je vais amener un petit peu de psychologie bouddhique ici, hein, en rappelant qu'elle est déterminée par la méditation, c'est-à-dire c'est la connaissance psychologique dans la tradition bouddhique vient de la méditation. Pas fait par des questionnaires ou des statistiques et autres. Donc c'est vraiment la source. Donc elle nous intéresse bien puisque c'est ce qu'elle met en jeu. Dans le fond, elle décrit ce qui se passe pour nous. D'ailleurs, elle n'est pas très différente d'une manière générale de la psychologie occidentale. Donc dans la tradition bouddhique, on fait une distinction entre ce qu'on pourrait appeler conscience primaire et conscience secondaire. Définir ce qu'il s'agit. La conscience primaire, c'est un peu, c'est la totalité. Prends un exemple que donnait Geshe Hamden, il disait, un de mes maîtres, il disait, ben, la conscience primaire, c'est comme la main, et puis les aspects, c'est comme les doigts. Mais on voit bien que la main, elle n'existe pas sans les doigts. Donc il y a une sorte de totalité qu'est la conscience primaire, et puis elle a différents aspects qui sont les doigts. Les doigts qui permettent justement, dans le fond, qu'ont différentes fonctions. Conscience primaire, il y en a six qui sont liées aux organes sensoriels, il y a celle de la vision, de l'audition, etc., tactile, olfactif, gustatif. Et puis, il y a la sixième sphère, la sixième conscience primaire, c'est les consciences mentales, conscience des pensées, conscience des images mentales, conscience aussi des états mentaux et autres. Donc, six. Elles sont appelées, elles prennent leur nom selon l'organe sensoriel duquel elles dépendent. La conscience visuelle, elle dépend évidemment de l'œil. La conscience auditive, c'est ce qui dépend de l'oreille, etc. Conscience tactile, c'est ce qui dépend du corps. Et donc, ce qui est important ici pour nous, c'est le rapport entre ces consciences primaires et ces consciences secondaires. Parce que, dans le fond, ce qu'on va explorer dans notre méditation, c'est surtout ces consciences secondaires. C'est tous ces aspects qu'on pourrait dire conscience primaire aussi comme, si vous voulez, un cristal, et puis les facteurs mentaux, c'est les facettes. Il faut bien voir ceci comme une unité, mais c'est pas un bloc parce que ces consciences secondaires, il y en a qui sont présentes à certains moments et qui ne sont pas présentes à d'autres moments. Ces facettes-là, elles viennent selon les circonstances. Donc la conscience primaire, c'est ce qui visuel, c'est ce qui voit, auditif, c'est ce qui entend. Mental, c'est ce qui pense ou qui imagine. Et puis, si on en restait là, évidemment, ben, ouais, ça serait assez pauvre. On serait juste une sorte d'organe perceptuel. Mais il y a toute une coloration qui vient teinter ces expériences-là. D'abord, ce qui accompagne, c'est la sensation affective. C'est éprouvé, chaque expérience est éprouvée comme agréable, désagréable ou neutre. Et dans le fond, le fait qu'on mentionne ceci et qu'on puisse l'éprouver dans la méditation, c'est ce qui fait que justement on est en prise avec la vie, ça nous touche. Le fait que quelque chose soit éprouvé comme agréable, désagréable ou neutre, qui est une sorte d'équilibre. Donc c'est bien que la vie nous touche. S'il n'y avait pas ça, voilà, on serait des ordinateurs qui perçoivent des choses. Donc cet aspect-là des sensations affectives fait que on est vraiment partie prenante des perceptions ou des consciences primaires. Mais c'est tous les aspects de ces consciences secondaires, donc elles sont des colorations d'une conscience primaire. Coloration, des aspects, elles ne sont pas séparées. La sensation affective, on n'a pas ici la vision, et tout d'un coup là, le fait d'être agréable, cette vision est éprouvée comme agréable, ou cette vision est éprouvée comme désagréable. Vous voyez, c'est un aspect de cette expérience-là, et non pas quelque chose de séparé. D'abord, il y aurait la vision, puis ensuite, il y aurait une réaction. Ces consciences secondaires ont des caractéristiques qui sont qu'elles surgissent en même temps que la conscience primaire, demeurent en même temps, disparaissent en même temps et dépendent du même organe sensoriel. Donc ça montre bien, d'une manière un peu rigoureuse, de montrer qu'ils sont complètement coexistent et surgissent au même instant, demeurent au même instant. Donc ces consciences secondaires sont que des aspects, des colorations que prend cette conscience primaire. Alors il y a ici, j'ai parlé des sensations affectives qui sont toujours présentes. Il n'y a pas de conscience visuelle, auditive, etc., qui ne serait pas affectée par l'objet ou par l'expérience elle-même, soit agréable, soit désagréable, soit neutre. Mais maintenant, il y a d'autres, ceci c'est donc toujours, ça accompagne chaque expérience, il y en a d'autres qui accompagnent chaque expérience de ces facettes, il y a une certaine attention. Pour qu'il y ait une expérience, il faut qu'il y ait un certain degré d'attention. Donc il y a toujours dans l'expérience, à chaque instant, il y a aussi un degré d'attention. Sans aucune attention, il n'y aurait pas vraiment d'expérience. Détermine quelques aspects qui sont toujours présents. Et il y en a d'autres qui sont présents uniquement à certains moments. Et ceux qui sont présents uniquement à certains moments, ben, c'est les émotions, c'est les états mentaux. Mais vous voyez, ils ne sont pas séparés. L'émotion n'est pas séparée de la vision, de l'audition ou de la pensée. Ce n'est pas quelque chose qui tout d'un coup vient après, comme le dernier wagon du train qui dit, attends, voilà, moi la tristesse. Je veux faire partie du truc. Non, non, c'est une qualité même. Et ça, c'est important. Dans la méditation, quand on aborde ces choses-là, autrement, il y a pas mal de confusion à ce sujet-là. Donc, ce qui veut dire que une émotion, je parle des émotions là, puis je préciserai encore quelques points avec l'état mentaux et autres, c'est qu'une émotion, elle est toujours liée à une conscience primaire, c'est-à-dire elle est toujours liée à une situation particulière de vision, d'audition, de pensée, ou d'imagination, ou de mémoire. Elle n'est pas sans objet. Il n'y a pas juste la tristesse qui surgirait comme ça, l'irritation qui surgirait comme ça, de l'inquiétude qui surgirait comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est toujours conscient de ça. On peut imaginer quelqu'un m'annonce une mauvaise nouvelle un matin, ça m'attriste, voilà, c'est quand même triste. Et puis j'oublie un petit peu cette nouvelle qu'on m'a annoncée, et tout d'un coup l'après-midi, je me trouve triste et je me dis, tiens, pourquoi est-ce que je suis triste? Cette nouvelle qu'on m'a annoncée, je l'ai oubliée dans le fond, mais elle reste quand même là, agissante, qui est ce qui motive la tristesse. Donc ça ne veut pas dire que c'est toujours évident. On peut trouver dans la méditation, des fois, des émotions où on a oublié la pensée qui a surgi ou l'image. L'image où la pensée est comme sous-jacente. On n'en prend pas conscience dans le moment, mais elle est quand même là. Je donne un exemple. Il se peut que dans la méditation, j'éprouve, disons, une lourdeur sur la poitrine. Je médite, voilà, tout va très bien, et puis je sens de la lourdeur sur la poitrine. Mais tiens, voilà, j'essaie d'être de manière attentive, être présent à ceci, et puis lentement je découvre tout d'un coup qu'il y a quelque chose, évidemment, c'est pas juste de la lourdeur, il y a quelque chose, peut-être tout d'un coup il y a une certaine tristesse. Voilà, donc là j'ai une sensation corporelle, j'ai la tristesse, mais je ne sais pas exactement pourquoi je suis triste. Ça peut être d'autres émotions, évidemment. C'est pas qu'il n'y a pas un objet à ceci, c'est qu'à ce moment-là, j'en ai pas conscience, j'ai pas conscience peut-être de cette pensée sous-jacente, de cette image sous-jacente qui est là et qui mobilise et qui motive cette émotion. Parce que, évidemment, être triste sans raison, irrité sans raison et autres, à ce moment-là, on aurait des sortes d'organismes complètement désorganisés. Donc il y a toujours un objet à ces émotions. Alors quelquefois on peut le reconnaître, quelquefois on ne le reconnaît pas. Et il se peut que dans la pratique, en restant tranquillement avec cette lourdeur sur la poitrine, avec l'émotion de tristesse, que tout d'un coup, il y a quelque chose qui surgisse de l'ordre d'une image ou de l'ordre d'une pensée. Et tout d'un coup, je me dis, ah ben voilà, tout d'un coup, je découvre là ce qui m'attriste. Donc pour bien montrer, c'est pour ça que j'ai voulu aller un peu précisément entre ces consciences primaires et secondaires, c'est qu'une conscience secondaire telle que l'émotion, elle n'est pas isolée, elle doit avoir un objet, elle est reliée à une conscience primaire qui est une pensée, qui est une image mentale, qui est la vision de quelque chose. Donc, la vision de quelque chose qui m'attristerait, je pense que ça évoquerait un souvenir qui amènerait la tristesse. Donc on a vraiment ces qualités. Il faut bien voir ces émotions, on verra d'autres qualités qui sont des colorations d'une expérience, d'une vision ou d'une pensée ou d'une imagination, qui sont des colorations, mais qui sont pas autonomes. Et donc il est clair ici que les émotions ne sont pas des choses corporelles. L'émotion n'est pas quelque chose de corporel. Il y a une réaction corporelle qui vient. Si j'ai peur, je peux me tendre, mais le fait de se tendre n'est pas la peur elle-même. Et ça, c'est important parce que quelquefois, dans la méditation, quand on peut distinguer cette tension, par exemple, et la peur, et on se rend compte qu'ils ne sont pas la même chose, à ce moment-là, on brise une sorte de boucle dans laquelle on s'était enfermé, où l'attention évoque la peur qui évoque l'attention, et tout d'un coup on s'enferme dans ceci. On pourrait très bien, par moment, sentir, je sens une sorte de crispation, et je sens la peur, et je me rends compte que la crispation n'est pas la peur elle-même. Elle est la réaction à la peur. Donc cette distinction entre l'inscription corporelle et l'émotion est aussi importante. Même si c'est pas toujours évident, mais quelquefois, on croit que c'est en étant plus précis avec la sensation corporelle qu'on va être plus clair au sujet de l'émotion. L'émotion, ce n'est pas l'inscription corporelle, c'est deux choses différentes. Une croyance qui est rajoutée, c'est-à-dire une pensée qui accompagne, qui motive l'émotion. Maintenant, il se peut parfois que on touche des émotions qui soient intenses, tristesse ou inquiétude ou angoisse. Et à ce moment-là, il est judicieux d'utiliser certaines stratégies. On ne peut pas simplement vouloir être conscient, éprouver, goûter l'émotion. Parce que là, on risquerait d'être submergé. Donc si c'est le cas, quelquefois quand c'est trop intense, à ce moment-là, on va choisir par exemple des sensations corporelles plus vastes que la zone qui est liée à cette inscription corporelle, une zone plus neutre, et ce qui permet de rester dans un état d'équilibre. Vous voyez, si toute l'attention ou l'expérience est limitée à l'inquiétude ou à l'angoisse, et qu'il n'y a rien d'autre, ça veut dire la seule chose que j'éprouve au monde dans ce moment-là, la seule chose qui existe au monde pour moi en ce moment-là, c'est l'angoisse. Évidemment, c'est un peu submergent. Mais si, dans ce contexte-là, je sens par exemple les genoux, les mains sur les genoux, les bras, qui restent quelque chose de plus neutre, de plus tranquille. Donc à ce moment-là, il n'y a pas la seule chose que j'éprouve qui serait l'angoisse. Il y a l'angoisse, c'est vrai, mais dans un cadre plus grand, qui fait partie d'une expérience, mais il y a aussi ces sensations corporelles neutres. Donc d'utiliser à ce moment-là un cadre plus vaste est important. Je parle ici d'angoisse, de tristesse, enfin pour toute émotion, ça pourrait être de la colère aussi par moment, de donner un cadre plus vaste pour ne pas être submergé. Pour continuer avec les émotions, puisque c'est ce que j'ai abordé ici. Alors l'émotion n'est pas l'inscription corporelle, donc ça, à rigueur, on peut comprendre que l'émotion a quelque chose d'autre, puisqu'on pourrait avoir un même symptôme corporel sans qu'il y ait une émotion. Je pourrais avoir de la lourdeur sur la poitrine sans qu'il y ait de la tristesse, ou une tension dans le corps sans qu'il y ait de l'inquiétude ou de la peur. Mais maintenant, il sera quand même toute une exploration, c'est-à-dire une sensibilisation à qu'est-ce qu'une conscience, qu'est-ce que cette coloration, qu'est-ce qu'elle est, cette coloration de tristesse, d'inquiétude. C'est quoi une conscience inquiète, une conscience triste? C'est quelque chose de très important, d'extrêmement fascinant que la conscience puisse s'attrister, puisse s'inquiéter. Pas je m'inquiète. Là, on est déjà dans construction conceptuelle, on a de la peine à vraiment. On comprend. Voilà, je m'inquiète. Voilà, j'ai compris, t'es inquiet alors. Bon. Mais c'est cette conscience inquiète, qu'est-ce qu'elle est quand j'essaie d'être présent à cette inquiétude ou cette conscience inquiète? Quel goût est là? Quelle coloration est là? Je crois que c'est important de questionner ces choses qui semblent évidentes. Là, on parle d'inquiétude, on sait de quoi on parle, de la tristesse, on sait de quoi on parle, mais quand on s'approche de l'expérience, ben c'est quand même assez étonnant de une conscience inquiète. Elle est comment c'est une conscience inquiète? On sait bien ce qui pourrait l'inquiéter, mais qu'est-ce que c'est que cette qualité d'une conscience inquiète? Ou d'une conscience triste? D'une conscience irritée? D'une conscience impatiente? C'est complètement fascinant. C'est la richesse aussi d'un organisme humain, c'est pas un défaut. Donc d'amener dans la méditation cette sorte de curiosité. Mais vous voyez, si on reste là au fait de reconnaître, moi là j'ai reconnu, il y a de la tristesse, j'ai reconnu, il y a de l'inquiétude. Voilà, on a juste reconnu ce qu'on appelle inquiétude, ce qu'on appelle tristesse, dont on connaît les effets, mais pas tellement la nature. Donc il s'agira là de venir avec cette curiosité, de cet étonnement. Pas traiter l'émotion comme un objet qu'on pourrait rejeter à l'extérieur, se débarrasser de sa colère, ouais, déposer dans la forêt sur une pierre. Il y a un présupposé que la colère serait quelque chose d'objectif. C'est une grande confusion. Donc l'émotion est évidemment purement subjective. C'est cette manière d'être à cet instant, être triste, être inquiet. Et si on arrive à se rendre disposé à vraiment explorer ceci, à goûter cette conscience triste. Quand on ramène le jeu dans l'histoire, il y a une sorte de solidification, et alors ça nous attriste. Mais une conscience triste, elle n'est pas attristante. Une conscience triste, elle a quelque chose d'extraordinairement touchant. Même une conscience irritée, quelque chose de touchant, quand on se relie à cette conscience teintée de tristesse, teintée d'irritation. À ce moment-là, on fait l'expérience de l'émotion sans la moindre contrainte. Cette conscience triste ne m'attriste pas, cette conscience irritée ne m'irrite pas. Non pas parce que je m'en suis débarrassé, non pas parce que je me suis convaincu que dans le fond tout va très bien. Pas du tout. C'est simplement parce que je suis dans ce rapport juste. Je parle de contact, je suis dans le contact juste avec l'émotion. Juste dans le sens où je ne m'attache pas à une transposition qui est le concept d'émotion, concept de jeu, qui fige tout ceci, qui solidifie tout ceci. Donc c'est vrai que les émotions, ici j'évoquais des choses un peu difficiles, la tristesse, l'inquiétude, l'irritation. On pourrait prendre d'autres aspects, même si on ne devait pas les appeler émotions, peu importe le langage ici, mais de la joie, du calme, de la tranquillité. Et aussi, qu'est-ce que c'est qu'une conscience calme? Ça, c'est quand même assez bizarre qu'une conscience puisse être calme. Ben voilà, c'est normal, c'est évident. Non, non, qu'est-ce que c'est? Si une conscience peut être calme, c'est qu'elle peut aussi être agitée. Donc, c'est quoi une conscience qui s'agite? Une conscience qui se calme? Il va pas s'agir, il demande de réfléchir. Vous pouvez réfléchir, ça ne va pas vraiment aider les choses, mais il faudra en faire l'expérience. Cette richesse de ces aspects que la conscience peut prendre, sans pour autant qu'elle en soit affectée. Prendre un exemple pour illustrer ceci. Bon, on pourrait prendre l'exemple du miroir qui n'est pas affecté par l'apparence qu'il prend selon le contexte. En diverses apparences, mais lui, il n'est pas affecté. Le miroir ne se tord pas, passe quelqu'un devant, puis tout d'un coup, fait des grimaces, le miroir. Il reste inaffecté, mais évidemment, là, nous, on regarde le miroir, mais dans l'exemple ici, nous sommes le miroir. La conscience est le miroir qui reflète la tristesse, l'inquiétude, la somnolence, la fatigue, mais qui, lui, en lui-même, n'est pas affecté. Je prends un autre exemple, celui du miroir me semble poser quelques problèmes. On verra si ça améliore les choses d'ailleurs. Imaginez une vitrine dans une ruelle, une vitrine d'un magasin. Et puis, dans cette vitrine, si on la regarde, on voit le reflet évidemment de ce qui se passe derrière soi, des voitures, des passants, etc. Il y a cette vitrine, imagine qu'on ne voit pas trop ce qui se passe dedans, mais on voit surtout les reflets. Alors évidemment, si on voulait se débarrasser de la voiture qui passe, là où elle s'est parquée, là, juste derrière moi, donc ça serait ridicule de prendre un chiffon pour effacer le reflet de la voiture qu'il y a dedans. Si j'essayais, d'ailleurs, on me dirait, écoute, va te reposer, il y a quelque chose qui ne va pas, à juste titre d'ailleurs. Donc, ça, c'est l'émotion. Cette vitre, elle prend cette apparence ici de la voiture autre chose, mais elle n'est pas du tout affectée, elle n'a pas besoin de se débarrasser de ceci. Donc, elle apparaît sous cet aspect ici de la voiture, d'autres personnes, mais elle-même, elle est complètement inaffectée. Mais c'est ce reflet dedans, pourtant, qui dépend des circonstances ici, de la voiture qu'il y a derrière. Eh bien, ces reflets-là peuvent être la tristesse, l'irritation et autres. Et quand on regarde qu'on est conscient, présent à cette conscience triste ou cette conscience irritée, inquiète, on est simplement là, on est cette vitrine évidemment, en reconnaissant cette apparence, c'est extraordinaire cette apparence qui est là, mais on ne la prend pas pour la réalité. On la prend comme l'apparence qui est là, c'est cet aspect que prend la conscience à ce moment-là de tristesse. Ici, c'est qu'une image, évidemment. L'image que je donne, c'est un peu plat, mais c'est beaucoup plus. Ça a beaucoup plus de richesse, la tristesse ou l'inquiétude ou l'irritation, que juste l'image d'une voiture. Et quand la conscience prend cet aspect, ce goût de la tristesse, de l'inquiétude et autres, sans pourtant qu'elle soit affectée, elle, transformée en inquiétude, en tristesse, en fatigue ou en somnolence. Donc à ce moment-là, chaque émotion est au contraire quelque chose, quand on peut être présent aux émotions, c'est quelque chose qui permet d'approfondir la méditation et aussi de se rendre compte que les émotions n'ont pas de pouvoir de nous affecter que celui qu'on leur donne. Bon, prenons l'éponge pour le chiffon pour essayer de les effacer ou de s'en débarrasser parce on leur a donné une existence concrète. Donc pourquoi j'ai pris cet exemple des consciences primaires et des aspects qu'ils prennent pour bien montrer que ces émotions et autres sont des aspects de la conscience primaire, sont pas des corps étrangers ni de la poussière qui vient se déposer sur le cristal ou autre. Ce sont juste des aspects, mais n'en transforment pas la nature. Donc chaque émotion qui surgit est une opportunité d'une exploration importante. Parce que on pourrait rêver de méditer, c'est super, j'ai une méditation tranquille, calme, c'est génial. Wow, passer une semaine fantastique, c'était calme, pas vraiment beaucoup de pensées, etc. Voilà, c'est bien. Mais bon, on aurait passé des bonnes vacances, tranquille, mais qu'est-ce qu'on aurait découvert? Où est-ce qu'on aurait gagné en liberté? Alors que s'ils surgissent des émotions, on n'a pas besoin de les chercher, elles viennent d'elles-mêmes en général. Plus ou moins intenses, mais il y en a plein. Ou alors on verra des facteurs mentaux qui surgissent aussi. Eh bien, si on arrive à découvrir ce rapport juste à ceci, ça c'est immense comme tout d'un coup, comme possibilité de liberté. On se rend compte qu'aucune circonstance n'a en elle-même le pouvoir de nous enfermer. Aucune. C'est pour ça qu'il y a une liberté possible. Autrement, si ces choses pouvaient vraiment nous affecter, il y aura toujours des circonstances qui vont faire surgir des émotions. Voilà, donc, pour définir un peu le terme émotion comme je l'entends ici, l'émotion c'est quelque chose, c'est une coloration de la conscience qui transforme un peu la réalité de l'objet. La tristesse, elle voit le monde, si disons que c'est par rapport au monde, elle voit le monde d'une certaine manière qui est d'une manière triste. Elle le prend pour objectif. et qui d'une manière exagérément terne. Si on partage ceci avec des amis, ils disent, mais non, c'est pas comme ça, c'est quand même pas si terrible. Voilà, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose d'une perturbation de la perception ici. De même que l'irritation. L'irritation, rien ne va, tout est de travers. On est entré dans une chambre, on a l'impression que tout est penché. Tout d'un coup, voilà, l'irritation, tout m'énerve parce que rien n'est à sa place, quoi. Donc ça aussi, c'est pas tout à fait une vision objective. L'inquiétude aussi. On connaît les personnes inquiètes. Tout est inquiétant. Mais t'as vu ça? Mais t'as entendu? Mais voilà. Et évidemment, la personne prend ça pour la réalité. C'est juste. Non, mais toi, t'es comme ça, vraiment. Tu t'en fais pas. Mais tu te rends pas compte. Quoi, voilà. Et puis la personne, elle est sincère, elle n'est pas là en train de nous ennuyer. D'ailleurs, quelquefois, on peut être dans cette situation-là. Hein. Quand quelque chose nous touche, on peut être aussi, mais enfin, quand même. Puis les amis ou les conjoints vont dire, mais enfin, tranquille, tranquillise-toi, c'est quand même. T'en vois, tu crois pas que t'en rajoutes un petit peu Donc, l'émotion est cette manière de transformer un peu la réalité. C'est pour ça qu'on l'appellerait émotion. Dans d'autres cas, la fatigue, par exemple, elle n'a pas cette caractéristique. On l'appellerait. Est un manteau parce que la fatigue, même si les choses apparaissent un peu moins claires, je ne crois pas que les choses sont moins claires. C'est pas parce que je suis un peu somnolent que je pense que tout d'un coup, tiens, le mur, il commence à être un petit peu flou. Alors, ça serait plus de la fatigue, ça serait autre chose. Ou alors une très très grosse fatigue. Donc voilà, on fait cette distinction pour avoir un langage qu'on comprend et ce qui veut dire qu'on l'aborde légèrement différemment. Parce que dans l'émotion, il s'agira aussi de se rendre compte, par exemple, quand on a cet objet principal, la pensée ou l'imaginaire, de se rendre compte qu'on lui donne aussi une réalité qu'il n'a pas. La tristesse, par exemple, qui pourrait se baser sur une perception de moi-même comme ayant peu de valeur, dans le fond, une vision négative de moi-même, exagérée, qui fait que ça m'attriste, j'arrive à rien, vraiment, j'y arriverai jamais, je suis bon à rien, je rate tout ce que je fais, qui pourrait être. Évidemment, être extrêmement attristant, surtout si c'était la réalité. Donc là, il s'agira aussi de reconnaître dans l'émotion cet aspect troublé de la perception, que ce soit de ma pensée sur moi-même ou sur une autre personne ou autre. Voilà, quelquefois l'irritation par rapport à une personne, on connaît bien ça. On en rajoute un petit peu quand même. Tout d'un coup, la personne est la pire personne au monde. Elle a fait juste une. Voilà, elle était adorable pendant 45 ans de joyeuse amitié, mais un jour elle a fait quelque chose de faux, elle est dégueulasse, cette personne, j'en étais sûr, etc. Ouais. Voilà. Et quand on est pris là-dedans, à ce moment-là, on pense que c'est la réalité. Donc on est dans l'irritation qui va augmenter cette vision et cette espèce d'inventaire de toutes les fautes que cette personne a fait. Et si on ne prend pas conscience de la vision trouble, déformée, de la réalité, à ce moment-là, on va s'enfermer. Dans le désir, par exemple. Voilà, le désir, c'est typique. Le désir, c'est génial si j'avais ça, ou lui, elle, ou je sais pas, cette voiture, cette situation. Ça serait vraiment génial qu'on en rajoute un petit peu, d'ailleurs. Si on parle à des amis, t'as vu lui ou elle, ils diront, ouais, d'accord, mais enfin, quand même, moi, je vois aussi, voilà, elle est sympa, il est sympa, mais enfin. Donc le désir, il en rajoute. Mais si le désir avait raison, et que cette personne, cette situation était vraiment aussi fantastique que le désir le fait croire, ça vaudrait vraiment la peine alors d'être complètement obnubilé par cette personne ou cette situation. Mais le désir, il en rajoute, quoi. C'est le roi du marketing. Et puis en général. Donc vous voyez, le désir sexuel, c'est comme ça, un plaisir extraordinaire, etc. Mais comme c'est un plaisir qui allait durer toute la vie, si seulement je pouvais rencontrer cette personne, quoi. Donc là, le désir en rajoute. Et si on ne questionne pas ça, alors on est pris dans une boucle. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire, oh, c'est juste du désir. C'est juste du désir, mais si c'est vrai quand même, alors ça vaut le coup, quoi. Alors dans ce cas-là, j'ai vraiment raison. Donc c'est là qu'on voit que la raison n'a pas d'effet sur le désir. On peut dire tout ce qu'on veut, ça ne joue pas. Parce que si vraiment, il y a ce plaisir ultime qui se trouve là, ça vaut vraiment la peine de faire tout pour l'obtenir. Simone Weil disait quelque chose comme ça. Elle disait, quand on a placé cette chose ultime dans une situation ou dans l'autre, comment ne pas y aspirer de toutes ses forces? on s'est leurré, là, on a placé quelque chose d'extraordinaire. Donc évidemment qu'après on va être fasciné, évidemment qu'après on va être, je sais pas moi, obnubilé par ceci. Donc ici, le premier aspect, c'est de se rendre compte que le désir, il transforme la réalité. Non pas qu'il n'y a pas de plaisir à obtenir, qu'il n'y a pas des situations souhaitables, c'est pas ça, mais le désir, il en rajoute quand même, qui fait qu'on peut être complètement pris par ceci. Et ça, c'est important, parce que quelquefois, voilà, de dire c'est le désir, alors, vous reconnaissez juste le désir, c'est le désir, et ben ça passe pas. Le désir, ça passe pas. Ou l'irritation, la colère, c'est juste de la colère, c'est juste de la colère, ça passe pas. Dans la mesure où on est pris dans cette vision déformée, donc il s'agit là de prendre conscience aussi de ce qui est un projeté sur la réalité, mais qui appartient à notre manière de voir. Donc en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler les phénomènes mentaux, les états mentaux, tels que la somnolence, la fatigue ou la joie et autres, c'est justement des colorations de la conscience, mais qui ne transformeraient pas la vision de la réalité, qui ne feraient pas voir de manière fausse, mais qui affectent quand même la somnolence, affectent la joie aussi, affectent la conscience, le calme, la tranquillité aussi, mais ne transforment pas la vision de la réalité. Voilà, ici une distinction qui me semble judicieuse de faire. Après, peu importe, c'est juste une question de vocabulaire pour qu'on puisse se comprendre. De la même manière, la somnolence, la fatigue est quelque chose d'intéressant à explorer, de même que la somnolence, mais la fatigue, disons, puisqu'on s'approche du soir. Alors, il y a l'aspect corporel, mais c'est en général pas le plus marquant, mais il y a l'aspect aussi mental dans la fatigue le soir. Et si on adhère à la fatigue, alors on est fatigué. Alors à ce moment-là, bon, allez, je fais encore 10 minutes ou je ne sais pas quoi, mais je suis fatigué. Et là, c'est le moment où on confond le reflet dans la vitrine avec la vitrine elle-même. Mais si je me rends compte que cette fatigue, ici je parle de la fatigue mentale, c'est juste un aspect de la conscience à ce moment-là, la conscience n'est pas transformée, je peux très bien être parfaitement serein dans la fatigue sans être fatigué dans la fatigue. Et ce n'est pas que je la nie, ce n'est pas que je dis, ouais, la fatigue c'est rien, elle est là, j'en ai parfaitement conscience, mais elle ne m'affecte pas parce que je ne suis pas dupe. Vous voyez, si je crois vraiment qu'il y a. Il y a ce reflet de la voiture dans la vitre. Alors, voilà, je suis. Non, c'est pas possible. Dans ma vitrine, on a collé une voiture comme ça. Et comment les clients vont voir ce qui se passe derrière? Mais si je ne suis pas dupe à ce moment-là, cette voiture ne me gêne pas. De la même manière avec la fatigue. Voilà, c'est ce qui apparaît. Mais la présence n'est pas gâtée par cette fatigue. Donc, ça, c'est d'explorer ces zones-là. Me semble très judicieux parce que c'est beaucoup moins dramatique que des angoisses, quelquefois, qui évidemment qu'on doit traiter avec beaucoup de doigté. Mais la fatigue, au pire, on va se coucher. La somnolence aussi, c'est pas très grave, donc c'est vraiment bien. Mais aussi le calme, la tranquillité. De la même manière, quand il y a du calme et de la tranquillité, on peut y adhérer. Alors, c'est juste. Au milieu d'une vieille voiture qu'il y a derrière, je ne sais pas, c'est quelque chose de très joli qui se reflète dans cette vitrine. Oh, c'est joli, c'est super, maintenant ma vitrine, elle est bien quand même. Mais la conscience elle-même, elle peut ni être calme ni agitée. C'est ce qui se reflète devant. Il y a des voitures qui passent, elle est agitée, il n'y a rien qui se passe, elle est calme. Mais la vitrine, elle ne bouge pas. De même, la conscience ne bouge pas. Ce qui apparaît en elle. Est multiple, ce qui apparaît en elle n'est pas multiple ou tranquille, mais elle-même, la conscience, elle a pas par nature cette capacité à s'agiter ou à se calmer. Donc lorsque dans la méditation, il y a du calme, de la tranquillité, de la joie, c'est aussi intéressant d'essayer juste d'être dans cette prise de conscience, dans cette présence au calme et à la tranquillité, sans pourtant y adhérer. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de remarquable, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas attaché au calme, à la tranquillité, à la joie, qu'on n'y est pas soumis dans le fond, que ce calme, cette tranquillité n'ajoute rien par rapport à l'agitation ou à toute autre expérience. toujours dans le même esprit de cette liberté qui est là, qui ne dépend pas des expériences. Le calme, la tranquillité dépendent des conditions, des expériences. Mais la présence elle-même, elle peut accueillir tout ceci sans être endommagée par ceci. Donc ce degré d'intimité, ici aux émotions, aux états mentaux, implique, quand on a ce degré d'intimité, il n'y a pas de saisie. La saisie, c'est croire que la voiture est vraiment là, on l'a collée sur la vitre, mais quand on se rend compte que la vitre, elle est juste le reflet de ceci, alors c'est une absence de saisie, qui est ce qu'on met en place dans notre méditation. C'est une manière de ne pas saisir. Une manière de ne pas saisir qui fait justement qu'on peut éprouver la tristesse, la colère et toute autre expérience en parfaite liberté. Voilà donc un survol un petit peu de certains points, mais je voulais amener cette distinction entre les consciences primaires et secondaires, parce que c'est quelque chose quand même qui éclaire un petit peu ce qu'on met en place, donc ces aspects de la conscience, mais qui sont toujours liés à une perception ou à la conscience mentale de pensée ou d'imagination ou de souvenir.